Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Pas de doute, la publication de caricatures de Mahomet, imbécile et surtout condamnable, car elles insultent et blessent une religion, ont fait ressurgir les vieilles rancœurs entre Occident et Orient, entre chrétiens et musulmans. Mais ne soyons pas dupes, les manifestations de colère dans les pays musulmans sont le fait d'une minorité extrémiste et fanatique. Elles sont orchestrées à des fins politiques ou idéologiques. Un prêtre tué en Turquie, des chrétiens tués aux Philippines, des ambassades saccagées dans plusieurs pays arabes, des manifestations dans les territoires palestiniens, au Liban et en Syrie, en Afghanistan et en Iran et j'en passe. On cherche à faire diversion, à faire pression, en d'autres mots, la grande instrumentalisation. Commençons par rappeler que les caricatures de Mahomet ont été publiées initialement au Danemark en septembre dernier, et l'on comprendra dès lors qu'il aura fallu tout le zèle de quelques fanatiques pour arriver à gonfler l'affaire à souhait jusqu'à ce qu'elle explose au lendemain des élections dans les territoires palestiniens, remportées par le Hamas qui a tout à se faire pardonner. Mais sur fond aussi de frustration syrienne qui a perdu le Liban, d'instabilité irakienne et afghane, et en pleine affaire du nucléaire iranien. Tout le monde, que ce soit même en Égypte, ou en Indonésie, a donc de bonnes raisons de fomenter la colère, et il est facile d'instrumentaliser ce sentiment ressenti par une grande partie du monde musulman d'un Occident qui les mépriserait. Mépris, domination aussi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ne dit pas autre chose qu'il vient ainsi de déclarer « La condamnation de l'AIEA revient à une confession que le problème n'est pas que nous cherchions à obtenir l'arme nucléaire, mais la technologie nucléaire. Ce qu'ils veulent, c'est que la nation iranienne dépende d'eux, et ce n'est pas acceptable par les Iraniens. » Le discours du guide suprême a été ponctué par des slogans traditionnels « Mort à l'Amérique, la Grande-Bretagne et Israël ». Avec le père jésuite Jean-Yves Calvez du Centre Sèvres à Paris, revenons sur ce droit ou non de posséder la technologie nucléaire. Même si l'on est en droit de craindre le pire, vu la rhétorique tenue par l'Iran ou encore la Corée du Nord, que peuvent faire les puissances nucléaires pour convaincre les non-possesseurs de s'abstenir? Et surtout, est-ce légitime alors qu'elles-mêmes s'opposent à tout progrès en direction de l'abolition? En réalité, les dés sont pipés, il est bon de le dire, et surtout de continuer à s'inquiéter d'une arme nucléaire qui, loin de disparaître, risque bien de proliférer. Le père Calvez s'intéresse aux revendications de l'Iran, révélatrices selon lui des limites des accords de non-prolifération.
Je suis très sensible à ce qu'il y a dans la posture de l'Iran de contestation du fondement même de l'interdiction de prolifération. Interdiction, bien sûr, qui relève d'un traité et d'un traité qui a été signé par un très grand nombre d'États, mais qui n'a pas été signé sans quelque pression des puissances les plus grandes. Alors, ça ne suffit pas. En un certain sens, aujourd'hui, à lire la presse, on est dans la situation d'États, très particulièrement l'Iran, là, qui violerait ou s'apprêterait à violer un traité qu'ils ont signé. Bon, en ce qui concerne la Corée du Nord, elle l'a dénoncé. D'ailleurs, elle a dénoncé sa signature, tout simplement. Alors, on est en apparence dans cette situation. Seulement, on est en réalité dans une situation, peut-être pour la première fois, de contestation du principe même au nom duquel les grandes puissances, les puissances détentrices, en tout cas, c'est pas forcément les plus grandes, détentrices des armes nucléaires, ont établi cette interdiction. Et pour moi, c'est la plus grande question, certainement aujourd'hui. Bien sûr que la signature de non-prolifération a une valeur comme telle, c'est vrai, mais une valeur tout de même assez limitée. J'ai eu l'occasion de participer l'autre jour à un échange dans une émission de radio en France avec un Iranien qui représentait modérément, mais assez bien, la position de son gouvernement. Et bien entendu, j'ai senti très très fort que la question de fond était tout de même la question du droit international à cet égard. Voilà. Est-ce que des puissances déterminées peuvent imposer quelque chose comme cela au reste du monde, de manière durable en tout cas? À la rigueur, un certain nombre de gens admettent que c'était probablement la première manière de réagir à la situation dans les années 60, mais de plus en plus, on s'interroge sur la possibilité de continuer avec exactement ce système. Entre parenthèses, c'est la question que depuis longtemps se posent des autorités dans l'Église aussi. J'ai relu il y a quelque temps les déclarations successives de Mgr Martineau, aujourd'hui cardinal Martineau, qui est actuellement justice et paix et qui a été pendant assez longtemps, une dizaine d'années, aux Nations Unies à New York, et qui a participé au nom du Saint-Siège à pas mal de négociations ou de conférences sur les armes nucléaires. Et j'ai vu apparaître depuis bien des années sa préoccupation de la nature discriminatoire du traité de non-prolifération. En 1995, je relis aussi une déclaration des trois présidents catholiques, orthodoxes et protestants du Conseil des Églises chrétiennes en France qui disaient très exactement l'hégémonie que s'arrogent les pays possédant l'arme nucléaire ne peut être ressentie par les autres nations que comme une discrimination inacceptable. Ça va très loin. Voilà pour moi le problème principal qui est en train d'émerger derrière la question particulière de la non-prolifération dans le cas de l'Iran aujourd'hui.
Est-ce que finalement ce n'est pas d'autant plus anachronique que les grandes puissances nucléaires donc essayent de persuader les non-possesseurs de s'abstenir alors qu'eux-mêmes se trouvent dans la situation que loin de désarmer finalement ils vont vers plus d'armement nucléaire et même une modernisation de leurs arsenaux?
Ce qui est vrai c'est qu'il y a eu un tournant et on peut dire que au moment où s'est terminée la guerre froide, et ceci à travers les déclarations de Gorbatchev, comme de Reagan, le président américain à l'époque, il y avait la décision, en somme, de commencer l'abolition totale des armes nucléaires, un désarmement nucléaire total. Et pendant quelque temps, un certain nombre de mesures ont été prises qui tendaient à cela. Et puis, vers 1994 ou 15, on a senti un recul qui n'a jamais été vraiment justifié. Les puissances nucléaires, ainsi, ont commencé à marquer de l'hésitation et chacun a commencé à considérer son intérêt propre en se disant, bon, quoi qu'il en soit du reste du monde, moi, pour me défendre de manière sûre, je veux garder des armes nucléaires et je veux les tenir à jour autant qu'il est nécessaire. D'où l'idée de reprendre certains tests. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de ces choses ont été reprises et elles l'ont été de manière beaucoup plus catégorique à partir des documents sur la sécurité nationale du président Bush, enfin de l'administration Bush. On a reculé à partir de là.
Donc on comprend bien donc qu'aujourd'hui les puissances nucléaires occidentales sont en quelque sorte les plus grands opposants donc en direction de l'abolition. Est-ce que pour l'Église quand même cette abolition reste de toute façon la seule solution à terme?
À mon avis, oui. D'après la lecture de toutes les déclarations des 10 dernières années, je ne doute pas de cela. Et à mon avis, ça représente bien la position que tiennent les diverses églises, je pense, et aussi bien le Saint-Siège ces dernières années. Et toujours avec en arrière-plan, disons, la conviction développée au Concile Vatican II, et qui reste le document clé, la conviction que la guerre a changé de nature avec des moyens de ce genre qui ne peuvent jamais être employés. Il est criminel dans tous les cas d'employer de tels moyens qui permettent la destruction massive de régions entières, de populations entières. vivre sur le volcan des armes nucléaires qui risquent toujours, par des escalades diverses, n'est-ce pas, de conduire à des actes de ce type, vivre de manière permanente là-dedans n'est pas acceptable pour l'humanité. Et la position de l'Église est vraiment que nous devons faire tous les efforts pour nous en passer.
Sentiment de mépris de l'Occident, de domination, frustration d'une frange de l'islam. Et voilà que l'histoire récente refait surface, et c'est notamment bien sûr la guerre du Golfe, mais aussi l'histoire ancienne jusqu'aux croisades. Un prêtre italien, Andrea Santoro, a été assassiné dimanche dernier en Turquie, en lien ou non avec l'affaire des caricatures, mais pour Mgr Louis Pelâtre, vicaire apostolique d'Istanbul, ce drame doit faire réfléchir tout le monde, chrétiens comme musulmans. Un entretien signé David Milia.
C'est un choc, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est dans le contexte évidemment des rapports Est-Ouest aujourd'hui, l'Orient-Occident, enfin le monde musulman avec le monde chrétien, enfin tout ça, on peut faire facilement un amalgame de tout.
Bien sûr, vous connaissiez ce prêtre italien ?
Je l'avais rencontré plusieurs fois, oui, quand il venait à Istanbul, il venait me visiter, il avait parlé là de ses projets. On lui avait quand même conseillé la prudence pour certaines choses, mais enfin voilà.
Quels étaient ses projets? Quelle était sa mission plus précisément sur place?
C'est évidemment, c'est tout le problème de la mission de l'Église en Turquie. Donc là-bas, sur la mer Noire, une ville comme Trabzon, il n'y a pas de catholiques, évidemment, très peu. Mais c'est une grande église, c'est un héritage du passé. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'immigrants maintenant qui viennent de la Russie, de la Roumanie, etc. Et alors, bon, c'était un homme bon, il accueillait tout le monde. Dans tous ces gens qui viennent, il y a toutes sortes de monde aussi. Il y a des amis et des ennemis, pour ça, il faut bien l'accepter.
Quand vous disiez tout à l'heure qu'on lui avait dit de se méfier, c'est par rapport au contexte local ou par rapport...
Non, parce qu'il y a malheureusement un phénomène, il y a beaucoup de prostituées comme en russe et roumaine et tout ça. Certainement qu'il avait voulu venir en aide et tout, et on lui a dit, là, il y a quelque chose un petit peu... Mais il avait, paraît-il, d'après les responsables de Caritas, accepté de ce qu'on lui disait, de faire attention et tout cela. Oui.
Et quelle est la situation de l'Église dans cette région de la Turquie?
Mais elle est quasi inexistante. Je vous dis, il n'y a que des vestiges du passé. Donc là, il se trouve qu'il était dans une église, oui, assez importante, avec des bâtiments, enfin, etc. et tout, mais il n'y a pas une paroisse, une fidèle, il n'y a rien. Alors c'est le problème, à partir de rien, de vouloir évidemment créer une présence, faire quelque chose. C'est une mission vraiment très difficile et très délicate. Enfin, moi, je ne comparerais pas à ce que nous vivons ici à Istanbul, par exemple, c'est complètement différent.
Et vous évoquiez tout à l'heure ces rapports Est-Ouest, Nord-Sud. Quel est le problème de l'Église aujourd'hui en Turquie plus largement?
Eh bien, bon, en Turquie, c'est un pays musulman, nous dit-on toujours, à 99%. Et je pense que beaucoup de gens sont des gens très ouverts, très évolués, qui nous veulent du bien, etc. Mais il y a aussi une frange donc d'intégristes, enfin de gens qui sont anti-Occident, anti-chrétiens. Ces gens-là existent aussi.
La personne chrétienne, qu'est-ce qu'elle représente exactement pour ces extrémistes?
Oh, mais c'est des vieilles. On remonte jusqu'aux croisades, vous savez. Les chrétiens sont les agresseurs du monde musulman, donc au Moyen-Orient, enfin voilà. Et on nous resserre toujours les croisades, c'est ça. Il y a quelque chose là qui n'est pas encore digéré. Il y a une espèce de lutte de pouvoir, si on peut dire. Qui aura le monde, c'est les musulmans ou les chrétiens. Enfin, il y a ça qui existe.
On est sur des combats d'arrière-garde, hein.
Ah,
mais
oui.
pour qu'on s'en rende bien compte d'ici, vu d'Europe...
C'est une réciprocité, parce qu'il y a aussi des franges chrétiennes en Occident qui ne font que taper sur l'islam aussi et sur les musulmans. Donc il y a une réponse. Ça s'attire, les extrémistes s'attirent les uns les autres. Alors, parce qu'il y a beaucoup... Ici, je dois dire que la réaction de toutes les autorités religieuses ici, c'est pour condamner. Je viens de recevoir encore un fax d'une organisation qui dit sa consternation, enfin des musulmans, enfin qui nous disent nous condamnons absolument des choses pareilles. Et donc ça, c'est le fait d'extrémistes. Nous sommes dans une atmosphère surchauffée à cause de ces choses-là. Et ici, à Istanbul aussi, il y a eu des grandes manifestations contre les caricatures de Mahomet. C'est ce que nous disons. Il faut respecter les religions aussi, c'est sûr.
Et samedi dernier, information qui, elle, pour le coup, est passée quasiment inaperçue, 6 chrétiens, dont un bébé de 8 mois, ont été sauvagement tués sur l'île de Jolo, dans le sud des Philippines, fief du groupe islamiste Abu Sayyaf. Les agresseurs ont frappé aux portes et questionné les occupants sur leur religion avant de revenir quelques minutes plus tard pour faire feu. Le groupe Abu Sayyaf est considéré comme lié au réseau terroriste Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Depuis plus de 10 ans, il s'attaque aux chrétiens et aux étrangers dans le sud des Philippines. Le père Michel de Gigor, qui a passé 25 ans dans ces régions, se dit lui aussi convaincu que cette volonté d'attiser le choc des religions et des civilisations est le fait d'une minorité islamiste fanatique et qu'aux Philippines comme ailleurs, l'histoire n'est jamais bien loin.
Si vous parlez du problème spécifique des Abu Sayyaf, ça dure depuis une vingtaine d'années, mais les problèmes entre les chrétiens et les musulmans aux Philippines, c'est une histoire séculaire. Ça n'a jamais vraiment marché entre les chrétiens et les musulmans aux Philippines, jamais. Il n'y a jamais eu une période où on puisse dire qu'il y a eu une entente harmonieuse et une cohabitation harmonieuse entre les chrétiens et les musulmans.
Et à quoi cela est-il dû?
Dans ce genre d'idée, il faut toujours reprendre l'histoire. Moi, je le dis toujours de façon très brève, hein, mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans les détails, mais de façon très brève, les Espagnols se sont débarrassés une fois pour toutes des musulmans là-bas en Espagne en l'an 1492. C'était la chute de Grenade, et là, et ben voilà, c'était la dernière présence musulmane en Espagne après 700 ans de présence, quoi. Et donc pour l'Espagne, qu'on soit d'accord ou non, mais en tout cas pour eux, c'était la libération, etc. Et voilà qu'ils arrivent aux Philippines, ils y arrivent en 1517, et patatras, et ils tombent sur une présence musulmane. Les musulmans sont arrivés aux Philippines avant les chrétiens. Et donc dès le départ, les relations ont été faussées, les relations étaient mauvaises. Il y a de toutes petites poches aux Philippines, de toutes petites poches. Rolo en est une, l'île de Basilan en est une autre. L'endroit où moi-même j'ai travaillé pendant plusieurs années, ce qu'on appelle le Marawi, la région de Marawi, en est une autre où il y a toujours eu une peur. Mais quand même, depuis 4 ou 5 ans, enfin depuis, disons 3-4 ans, on avait l'impression que véritablement les choses étaient en train de s'apaiser. Il n'y a pas eu de grosses choses depuis longtemps. C'est la première depuis très longtemps. Depuis 3 ou 4 ans, quoi. Hein. Et alors, je pense que ça va recréer de nouvelles peurs. Mais moi, chaque fois, tous les ans, je reviens aux Philippines et bon, on entend toujours les mêmes choses sur la difficulté de la rencontre entre les chrétiens et les musulmans. Mais je n'avais pas senti les 2 ou 3 dernières années cette peur viscérale qu'on pourrait avoir des musulmans en général. D'autant plus que, je vais vous dire, les Philippines, c'est pas la Turquie, les Philippines, c'est pas l'Arabie Saoudite, les Philippins, qui sont capables de violence, mais sont quand même fondamentalement des gens paisibles. Est-ce qu'il y a des chefs musulmans qui vont prendre avantage de cette affaire des caricatures pour dans des buts politiques, j'en sais vraiment rien.
Un événement ponctuel comme celui-là, très très cerné, ramène chaque fois tout à la case départ.
Oui, mais si vous voulez, je crois que dans une affaire comme ça, les gens qui réagissent, je parle du côté de l'islam, les gens qui réagissent, moi j'ai quand même l'impression que ce n'est qu'une poignée de ça ne représente pas l'islam en tant que tel. Ça représente une partie de l'islam qui est, moi, à mon avis, quand même, véritablement, est tombée dans le cycle d'une violence effroyable et n'arrive plus à en sortir et prennent toute occasion pour faire feu de tout bois. Mais ça nous revient quand même, quand on lit la presse et tout ça, on voit quand même qu'il y a toute une partie du monde musulman qui s'inquiète énormément de cette violence et qui disent ça détruit l'image de l'islam, ça ne sert pas l'islam, il faut absolument arrêter cette affaire-là, quoi. Hein. On sent quand même que on peut pas parler de l'islam comme d'un bloc, quoi. Hein. Et la partie réactionnaire, violente de l'islam ne représente pas véritablement l'islam en son entier. C'est le grand danger, justement. Ils jouent avec le feu, ces gens-là, quoi. Hein. Personnellement, hein, j'aurais tendance à croire qu'elles ne sont pas spontanées, elles sont utilisées pour maintenir la pression, pour maintenir la peur. Du côté des musulmans, hein, je pense quand même que du côté des chrétiens, l'attitude est totalement différente. Même, je voyais, au Pakistan, où sans arrêt maintenant, depuis 2, 4 ou 5 ans, il y a des attaques contre les chrétiens, des églises brûlées, tout ça. On ne sent pas de la part de la... On sent une peur, mais pas une haine, mais pas une violence comme celle qui est manifestée par cette tranche de l'islam fanatique qu'on voit à l'heure actuelle.
Vous parlez du Pakistan, mais en Inde aussi, il y a eu encore de récentes attaques.
Il y a l'Indonésie, aussi, il y a dans plein de pays. Il y a une frange de l'islam qu'on trouve dans tous les pays du monde et qu'on a l'impression est vouée à la violence, ou en tout cas ne sait plus en sortir, et ça devient une espèce de drogue épouvantable, quoi. Je vois pas du tout cette réaction-là de la part des chrétiens, quoi.
Alors on retourne au début de notre entretien. Vous me disiez justement, Abou Sayyaf, c'est qui? Se trouve derrière Abou Sayyaf? Vous venez de dire, cette violence, elle est le fait d'une frange, elle est certainement fomentée. Et donc, voilà, qui est derrière cette violence dans le sud des Philippines? Qui se trouve derrière Abou Sayyaf? On parle parfois d'Al-Qaïda, et là aussi, qu'est-ce qu'Al-Qaïda?
Alors vous savez, il y a trois théories. Il y a toujours eu trois théories depuis l'avènement de ce groupe qu'on appelle Abou Sayyaf. Il y a toujours eu trois théories. Je vous les présente telles quelles. La première, qui paraît la plus extravagante, mais qui quand même a un certain sens, c'est que cet Abou Sayyaf aurait été créé de toutes pièces, hein, par la CIA et par l'armée philippine qui est en mèche avec la CIA. Le but de cette affaire-là, ce serait de maintenir un niveau de tension importante au sud des Philippines, et ça donne une raison d'être et aux Américains pour combattre le terrorisme et à l'armée et à la police des Philippines une raison d'être pour continuer le combat, avoir des promotions, des bons salaires et un budget militaire important. Donc ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que cet Abou Sayyaf s'est greffé sur l'état de tension entre le MNLF et le gouvernement philippin, mais en fait, ce ne sont que des brigands. Ça, c'est la deuxième théorie. Et la troisième théorie, alors, c'est celle que le Abou Sayyaf serait une créature de Al-Qaïda. Ce serait la branche Al-Qaïda des Philippines. Manipulé dans cette grande nébuleuse de l'Al-Qaïda, ben Abou Sayyaf serait là. Voilà les trois théories qu'on met toujours en avant quand on pense à ces Abou Sayyaf.
Et en guise de conclusion, j'aimerais vous faire entendre ou réentendre ce que nous disait il y a quelques jours le père Samir Khalil, jésuite libanais du Conseil pontifical oriental de Rome.
Je trouve qu'il serait bon qu'en Occident, sans du tout limiter la liberté de pensée, la liberté de presse, la liberté religieuse, que l'on tienne davantage compte de tout ce que signifie en profondeur le sentiment religieux. Mais je trouve en même temps qu'il est essentiel que le monde musulman comprenne que la liberté d'opinion est une des conditions fondamentales de la modernité et de la démocratie. Le nombre de réactions quotidiennes dans la presse occidentale anti-chrétienne et anti-catholique est constant. On connaît la presse, elle aime la provocation, c'est une des manières d'assurer la diffusion. Ça, c'est la loi de la presse. Mais je pense qu'il ne faudrait pas la réduire à cause des bavures qui périodiquement ont lieu. Parce que c'est la condition de la démocratie et que nous, Arabes, nous devons entrer dans cette démocratie. Que pour nous, Arabes, notre image et l'image des musulmans en sort encore assombrie. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Soyons honnêtes, les gens de par le monde ont le sentiment toujours plus fort que le monde musulman tend à la violence. On me répondra, mais regardez ce que fait l'Amérique, ce que font d'autres pays. Je dis c'est vrai, mais ils ont au moins la pudeur de ne pas le faire au nom du christianisme. Et c'est cette incapacité de comprendre l'autre monde, un peu dans les deux sens, qui est typique de ce que nous vivons en ce moment. Quand le Saint-Père, le 9 janvier, dans son discours aux diplomates, a dit qu'il y a aussi un conflit de civilisation et de culture, je pense qu'il avait raison.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.